Bienvenue à vous qui venez d'entrer dans la deuxième partie de C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris. Si vous avez manqué la première partie, nous avons parlé actu, du spectacle Ça va, ça va de Camille Chamou et de la musique d'Ethel Kane. Allez l'écouter. Et pour cette deuxième partie, nous continuons avec la BD, le cinéma et les arts visuels. Allons-y, lançons-nous dans ces découvertes artistiques.
Bande dessinée,
jeux vidéo et multimédia.
Cinéma.
C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Allez, à mon tour de vous parler de bande dessinée. Le prix BD FNAC France Inter 2025 vient d'être remis à l'auteur américain Will MacPhail, comme l'a dit Violette dans le tour d'actualité, pour son œuvre Au-dedans. Le résultat est tombé mercredi 8 janvier, il y a une semaine, et je le félicite, mais je vais être honnête, hein, je ne vais pas pouvoir vous en dire plus sur son synopsis. Voilà, j'avais prévu de vous parler d'une autre BD qui était en shortlist pour ce prix, et quand j'ai vu les résultats, bon bah ça collait plus. Mais j'ai décidé de quand même vous en parler, parce que c'est un récit qui personnellement m'a touchée et m'a fait grandir. Tous mes respects bien sûr à Will MacPhail, hein, ça va de soi, je doute pas du tout de la qualité de son œuvre. Mais voilà, j'ai préféré parler cheveux avec la BD Racine de Lou Luby. Est-ce que vous en avez entendu parler ?
Pas du tout.
Allez, bah, ça me laisse tout le terrain pour vous expliquer ce que c'est et vous donner envie d'aller la lire. Racine, c'est cet ouvrage paru en 2024, donc l'année dernière, où l'autrice raconte le parcours de Rose et sa relation à ses cheveux qui a conditionné beaucoup de moments de son existence. En réalité, c'est un récit semi-biographique. On comprend vite que c'est rien d'autre que la vie de l'autrice, ce qui rend le propos encore plus concret. Et c'est pour ça que je l'ai tant aimé. C'est parce qu'il mêle à la fois un récit intime et une approche journalistique. Moi qui pensais découvrir seulement une histoire personnelle, j'en suis ressortie avec une tonne d'informations et de réflexions sur la question de l'apparence et des origines. Et aussi, une bonne dose d'ouverture d'esprit dans la tête, ça fait pas de mal. En bref, j'ai appris plein de choses. Et pour tout vous dire, je me suis sentie bien bête à certains moments de ne jamais m'être posé ces questions-là. Allez, je vous raconte. Dans l'histoire, Rose naît et passe son enfance à La Réunion. Elle est blanche de peau et a les cheveux crépus. Et dès son plus jeune âge, ses cheveux conditionnent immédiatement son identité et son quotidien. Entre séances de coiffure interminables avec sa mère, qui crée malgré elle une relation de dépendance, ou encore comparaison et jalousie envers ses frères, l'enfance de Rose est déjà marquée par 1000 questions identitaires. À son adolescence, elle décide de se simplifier la vie et de couper le cordon avec sa mère en se rasant la tête. Mais voilà, une autre question identitaire surgit. Suis-je une fille ou un garçon ? Pour ses études supérieures, on continue, elle emménage en France métropolitaine pour des études de journalisme. Et là, elle découvre les chevelures des citadines parisiennes. Elles sont lisses, blondes, châtains ou roux flamboyants, rien à voir avec elle. Et là, elle ne se sent pas féminine. Chacune de ces étapes de vie la pousse à chercher au plus profond d'elle-même qui elle est. Elle en vient parfois à cacher ses origines, tente de se coller au moule, se lisse les cheveux et s'adapte au quotidien parisien. Mais quand elle se rase la tête, on la traite de garçon. Quand elle se les lisse, ses origines réunionnaises n'apparaissent pas. Et quand elle fait des tresses, on l'accuse d'appropriation culturelle. C'est un parcours long, pas toujours facile, semé d'embûches et de doutes. Finalement, elle apprendra quand même à faire la paix avec qui elle est et à gagner en fierté, ce qui pour ma part m'a touchée. Comme je vous le disais, le récit est ponctué régulièrement de données historiques et journalistiques. L'autrice a réalisé une vraie enquête autour de la place du cheveu crépus dans la société, et mon Dieu ce que j'ai appris. Pour ceux qui la liront, attendez-vous à en apprendre plus sur le colonialisme, les dessous budgétaires des soins liés aux cheveux crépus, les marchés parallèles qui se créent souvent dans des conditions difficiles, en bref, toute une culture qui est là, juste là, partout, et sur laquelle on ne se penche pas assez. Finalement, c'est une réflexion générale sur l'identité et l'origine qui est au cœur de l'intention de Racine. Ce récit est doux, tendre et éducatif, traitant de ce long chemin qu'il faut faire pour finalement vivre avec soi. Alors, vous en dites quoi ?
Ça donne envie de le lire, en tout cas la manière dont tu l'as présenté. C'est vrai que je pense que c'est des questions qui commencent à se poser et dont on commence à parler plus. Mais il y a 10 ans, au collège-lycée, c'est vrai que tout le monde, enfin au collège, tout le monde avait les cheveux lisses et tout. Et c'était pas une question qui était abordée. C'était vraiment les personnes qui avaient les cheveux bouclés ou crépus devaient se conformer aux lisses, voilà, par excellence. Et puis c'est tout, quoi. Alors que maintenant, j'ai l'impression que ça commence à changer, enfin, j'espère. dans les collèges lycées.
Je crois, je pense qu'on peut pas leur enlever ça. Les réseaux sociaux ont eu un peu de bon là dans ce cas-là. Il y a quand même eu une vraie vague de boucles qui ont envahi les réseaux sociaux avec les routines boucles, tout ça. Et j'ai l'impression que ça a permis quand même à pas mal de femmes, notamment, de se libérer sur leurs boucles et de les assumer beaucoup mieux. Je pense que déjà, on est dans une logique qui avance dans ce sens-là. Et c'est quand même grâce aux réseaux sociaux, aux vidéos et aux routines, du coup, comme tu disais, qui coûtent cher, malheureusement. Voilà, c'est autre chose. Mais on avance dans le bon sens, j'ai l'impression.
Je pense aussi.
En tout cas, le sujet est hyper intéressant parce qu'il touche à la représentation de soi, aussi à l'intimité. Il y a plein de choses, c'est vrai. Moi, j'ai les cheveux très lisses, par exemple. Et c'est vrai que j'ai des amis où ils avaient toute une routine et parfois, ils étaient obligés de faire vraiment avec du système D pour entretenir leur boucle. Et ça me paraissait fascinant. Je me disais, mais oui, mais j'aurais jamais cru qu'il fallait faire ça pour entretenir ses boucles. Et ça doit être tellement pénible de ne pas trouver ces produits. Et en fait, ça part de choses très bêtes, mais oui, dans la représentation de cette routine-là et de ces beautés-là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à creuser. Et puis le fait qu'en plus le récit se mêle aussi d'informations un peu plus contextualisées fait que ça doit rendre le récit encore plus universel, quoi.
En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que non seulement ça montre donc les routines, donc déjà moi, très innocente, je ne savais pas qu'il fallait faire tout ça, et au-delà de ça, ça raconte le pourquoi on fait ces routines. Ouais. Et c'est ça aussi qui n'est pas assez pointé, je trouve. On a encore trop cette vision de « Ah, c'est un thème de filles ». Ah non, c'est pas un thème de filles. Pourquoi les filles, elles font ça? Et puis même maintenant, aujourd'hui, les garçons, grâce aux réseaux sociaux. Mais pourquoi on fait tout ça? Pourquoi notre apparence est si importante? Et c'est vrai que ça donne des vrais éléments de réponse. Et c'est ça qui était très, très agréable dans la lecture. Ryan, toi, qu'est-ce que t'en penses?
Je pense que ça touche à un thème très important qui n'est pas très abordé. Il y a encore beaucoup de produits lissants qui sont très dangereux, qui sont en vente et qui sont consommés et qui sont vraiment, vraiment très dangereux pour la santé et pour les cheveux d'ailleurs. Je trouve que ouais, on avance sur ce sujet et que de plus en plus les cheveux crépus et les cheveux bouclés sont laissés au naturel comme ils devraient l'être. Même si bien sûr les lissés parfois ça peut être aussi bien, mais ça doit jamais être, selon moi, pour se dire que ça c'est beau et les cheveux naturels c'est pas beau, donc je pense que cette BD va faire avancer les choses et va résonner avec beaucoup de gens.
Écoutez, moi je vous invite à la lire en tout cas, elle était géniale, c'était Racine de Louloubi, elle est encore en vente dans la plupart des libraires, donc si vous avez été convaincus, je vous laisse y aller. Vous écoutez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM à Paris et dans sa région.
C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris.
Les écrans sont devenus un support artistique incontestable, mais qu'en est-il de l'IA? Et quel lien artistique peut-on entretenir avec elle? Jeanne, tu nous parles d'une exposition particulière sur ce thème pour notre rubrique Art visuel.
Oui, je vais vous parler d'une exposition qui s'appelle Pixel, une expérience immersive avec l'univers créatif de l'intelligence artificielle, c'est son titre. La première grande exposition dédiée à l'art numérique de Miguel Chevalier, à voir au Grand Palais éphémère jusqu'au 6 avril. Miguel Chevalier, c'est un artiste français, il est né en 59, c'est un pionnier de l'art numérique qui s'intéresse depuis les années 70 à l'utilisation de l'informatique dans l'art visuel.
Alors qu'est-ce qu'on peut voir dans cette rétrospective au Grand Palais éphémère ?
Le travail de Miguel Chevalier y prend de nombreuses formes, des accrochages, des sculptures, du mapping vidéo, avec le point commun d'avoir toujours intégré les technologies d'intelligence artificielle générative à son travail à mesure qu'elles apparaissaient dans nos sociétés. Il travaille aussi beaucoup autour de l'esthétique du pixel et du voxel, le pixel en volume. Et le Grand Palais éphémère, pour ceux qui connaissent pas, c'est un espace qui fait un peu penser à un hangar, fait de grandes pièces en béton brut, un bâtiment qui a vocation à se laisser oublier, très sombre, pour concentrer l'attention du visiteur, ici, sur des installations artistiques très lumineuses, souvent faites de vidéos, de projections, d'écrans en tout genre, et beaucoup, beaucoup de fluo, avec aussi une bande-son très présente composée par Thomas Roussel.
Alors, est-ce que tu nous conseilles cette exposition ?
En fait, c'est une exposition qui arrive peut-être un peu trop tard. En sortant, je me suis dit que ce que je venais de voir m'aurait peut-être totalement impressionnée il y a 5 ou 6 ans. Mais aujourd'hui, l'IA est partout. Elle a complètement infusé dans notre quotidien, avec des enjeux hyper médiatisés. Là-dessus, je ne vous apprends rien. D'ailleurs, le grand public a déjà largement commencé à s'approprier cet outil. Autour de cette table, on a sans doute tous déjà demandé à ChatGPT de nous aider à réfléchir à notre place. De la même façon qu'on s'est tous déjà un peu marrés en pointant les incohérences d'une image générée sur Midjourney. Et c'est là, pour moi, le problème. C'est que cette expo, elle en est un peu restée à cet endroit. Exemple concret, dans une des salles principales, on voit une quinzaine d'écrans sur lesquels défilent des prompts qui ont été soumis à une IA sur des thèmes inspirés de la science-fiction, des robots, etc. Et ensuite, on voit les images qui ont été générées à partir de ces prompts. Avec ça, j'imagine qu'on veut faire de l'IA quelque chose de spectaculaire, d'intrigant, de divertissant aussi. Mais en fait, le souci, c'est que le progrès de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il va tellement vite que ce type d'installation est presque déjà has-been, déjà trop vu, presque déjà obsolète. Autre exemple, à plusieurs endroits du parcours, et notamment dans la salle principale, le visiteur est plongé dans un décor projeté au sol et au mur en vidéo, dans lequel il interagit, d'où l'expérience immersive. C'est-à-dire que le décor se module, se transforme par le mouvement du public. Donc, ce dispositif, qui est censé être la pièce maîtresse de l'expo, en fait, moi j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça souvent, y compris dans l'espace public, dans des installations artistiques, il y a déjà plusieurs années de ça. Alors certes, ça peut avoir un côté divertissant et esthétique, mais justement, ça me pose un autre problème. Et là, c'est vraiment mon côté boomer aigri qui parle. Mais même s'il n'y avait pas grand monde quand j'y suis allée, les quelques visiteurs étaient tous en train de prendre des vidéos de l'espace, de se mettre en scène dans cette installation, etc. Et en soi, il n'y a pas de mal à ça. Ça fait partie de nos usages et de la façon dont on consomme la culture aujourd'hui. Mais bon, j'ai un peu l'impression que l'expo était conçue pour pouvoir être montrée sur les réseaux sociaux et faire venir plus de monde. Et ça, ça a un peu tendance à me gêner, parce que quand on me vend une expo dédiée à l'art et l'intelligence artificielle, je me dis qu'il y aurait eu vraiment matière à pousser plus loin la réflexion, à donner un aperçu des possibilités infinies de cet outil, qui a d'ailleurs toutes les chances de révolutionner la façon dont on va créer dans les années à venir.
Donc j'en conclus que c'est pas un immanquable des expos du moment.
Mais si le sujet vous intéresse, allez-y, faites-vous votre propre avis, c'est important. Mais si vous êtes moyen intéressé, faut quand même rappeler que c'est pas donné. Hein. En tarif plein, c'est 17€ sans l'audio guide. Donc voilà, en effet, c'est pas franchement une recommandation.
C'est vrai que là, tu pointes du doigt quelque chose que je pense qu'on commence un peu à tous ressentir, c'est ce décalage entre l'avancée de l'intelligence artificielle et nos usages dans la vie de tous les jours. Violette, toi, qu'est-ce que t'en penses de l'IA dans ta vie en ce moment-là?
Moi, je suis aussi un peu boumeuse là-dessus, c'est-à-dire que je suis anti-IA. Non, enfin, j'utilise un peu ChatGPT, mais en fait, ça me fait un peu peur. Moi, je suis encore en master et je vois des gens qui l'utilisent vraiment pour tout, genre pour tout et rien. Et en fait, moi, ça me terrorise. On a un cerveau, il sert à quelque chose. Désolée, je suis votre oncle de 60 ans à table. Genre vraiment, moi, j'ai envie de continuer un peu à faire marcher mon cerveau. Je me dis que j'ai 20 ans, il peut encore marcher, donc autant essayer de proposer des choses qui viennent de nous. Donc moi, je suis un peu anti-IA, même l'IA dans l'art et tout, ça ne me touche pas spécialement. Enfin voilà, du coup, j'avoue que je suis pas hyper emballée en plus avec ce que tu as dit, Jeanne, je suis pas sûre d'y aller, mais bon.
Après, je pense que cette expo elle résume pas tout ce qui peut se faire en mêlant l'art et l'IA, mais dans ce contexte-là, c'est vraiment ce côté spectaculaire de oh, regardez comment c'est trop marrant une image générée par IA. Moi, je trouve qu'on a vraiment dépassé ça et qu'aujourd'hui, peut-être qu'il faut qu'on recentre la conversation sur qu'est-ce que ça peut nous apporter, comment on s'en méfie, comment on apprend à l'utiliser pour que ce soit un bénéfice, quoi, et pas juste pour s'extasier ou pour en avoir peur, ou voilà.
Alice ?
Moi, je trouve qu'il y a un truc qu'on oublie beaucoup avec les IA, c'est la consommation en énergie, et c'est ultra polluant. En vrai, quand on regarde les chiffres, c'est énorme, parce que du coup, c'est stocké sur des ordinateurs, dans des tours, c'est vraiment une consommation d'électricité, notamment, qui est hyper impressionnante, et je trouve que du coup, quand on écrit sur ChatGPT en mode « Ah, trop marrant et tout, il m'a dit une blague, waouh, il m'a donné une recette, je sais pas quoi. » Mais en fait, derrière, ça pollue, quoi. Enfin, genre, ça a des réalités écologiques qui sont un peu sous-cotées. Enfin, pas sous-cotées, mais non, c'est horrible, c'est pas du tout le bon mot. mais voilà, donc ouais. On parle pas assez, en tout cas, et on évoque pas assez ce côté-là, empreinte carbone de l'IA qui est loin d'être neutre.
Que le chiffre, moi, que j'avais entendu, c'était que si tu faisais... si tu envoyais à peu près 10 messages par jour à ChatGPT pendant un an, en gros, ça équivalait à une tonne de CO2 émise, sachant qu'on est sur un objectif 2 tonnes émises par an par personne. Donc la moitié de notre émission se réduit à ChatGPT.
C'est sûr qu'il y a beaucoup de parts d'ombre autour de l'IA. Marie-Lou, toi, tu sens que tu le maîtrises ou pas trop, ce sujet?
Alors, moi, l'IA, bizarrement, je suis peut-être moins boumeuse que certaines autour de la table, autour de ça. Je suis assez enthousiaste sur certains points. Je pense que ça peut aider. Après, bien sûr, il faut qu'il y ait des garde-fous, que ce soit du point de vue écologique, comme tu en parlais, Alice, et même au niveau humain, en fait. Mais bon, c'est nous qui l'avons créé, donc j'ai quand même bon espoir de me dire... C'est peut-être très optimiste de dire, voilà, on l'a créé, donc j'espère qu'on pourra toujours la contrôler. Et je trouve qu'en plus, l'exposition, enfin, mêler l'art à l'IA, en fait, c'est là où je suis un peu dubitative, parce que je trouve que c'est pas une bonne manière d'appréhender l'IA. Parce que je pense que dans un peu le microcosme parisien, on est assez... en fait, l'IA fait un peu partie de notre quotidien maintenant. Et typiquement, des gens, peut-être qui ont 60 ans, qui vont aller voir l'expo, ils vont juste, je pense, avoir peur, en fait, se dire ouh là là, mais en fait, c'est en train de tout remplacer. Mais les générations suivantes vont être des robots. Et je trouve que ça manque peut-être de pédagogie, un peu de dire comment on peut l'utiliser, comment ça peut être utile. En tout cas, c'est mon avis, mais je pense que c'est très impressionnant, mais ça manque peut-être de concret.
Vaste sujet dont on pourrait parler pendant des heures, mais bon, il faut partir en pause musicale. On le rappelle, on a parlé de Pixel, l'exposition immersive autour de l'IA. Ça se passe au Grand Palais jusqu'au 6 avril 2025. Si vous voulez vous faire votre propre avis, allez-y. Vous écoutez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM à Paris et dans sa région.
Sculpture,
littérature,
musique. C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Nous sommes déjà à la dernière partie de notre émission, mais nous finissons en beauté en parlant cinéma. Marie-Lou, pour cette rubrique, tu nous parles de liens humains et de famille dans des registres différents.
Tout à fait, Léa. Et pour cette chronique, j'ai choisi de vous parler non pas de un, mais de...
Deux films ?
Eh oui, deux films, carrément. Parce que contrairement à François Bayrou, moi, j'ai envie de laisser le choix à nos éditeurices. Voilà. Alors, ces deux films sont très différents, mais ils évoquent deux sujets que j'adore dans le cinéma, la mort et les relations humaines. Alors, mon premier film est un film français qui parle de relations fraternelles et de musique. À votre avis, de quel film s'agit-il ?
En fanfare.
Oh, ah, comme ça. Il s'agit bien évidemment d'Enfant phare, réalisé par Emmanuel Courcol. Alors, je sais, hein, il est plus que la première fraîcheur, puisqu'il est sorti le 27 novembre 2024, donc il y a presque deux mois. Mais il a dépassé le cap du million d'entrées en à peine un mois, ce qui est plutôt une belle performance pour le cinéma français, et du coup, il est toujours à l'affiche. L'histoire de Enfant phare, c'est celle de Thibaut, un chef d'orchestre et prodige de la musique d'à peine 40 ans, qui apprend coup sur coup qu'il est gravement malade et que sa famille n'est pas celle qu'il croit. On écoute.
Je vous explique. Il y a 15 jours, j'ai appris que j'avais une leucémie.
Ah merde.
Oui. Ma sœur a fait un test pour savoir si elle pouvait me faire un don de moelle et il s'est avéré qu'elle n'était pas compatible.
Ah merde.
Mais surtout qu'elle n'était pas ma sœur.
Ah putain. Enfin, je veux dire, merde.
Oui. Mais j'ai découvert que j'avais un frère. Et en fait, ce frère, c'est vous.
Putain, qu'est-ce qu'il me raconte, lui ?
Alors, le film relève de la comédie sociale et habituellement, je déteste ces films français pleins de mièvrerie et de bons sentiments. Pourtant, le film se révèle très juste, notamment grâce à l'interprétation de Benjamin Laverne de la comédie française. Je l'ai trouvé émouvant sans sombrer dans le pathos. On ressent une vraie empathie pour ces deux frères, unis par leur passion pour la musique, mais qui ont parfois du mal à composer avec leur destin si différent. Oui, parce que Thibaut a beau être un éminent chef d'orchestre, son frère, Jimmy, n'est que tromboniste dans la fanfare de sa ville, dans le nord de la France. Mais loin de faire de la peine, Jimmy incarne en fait la figure du sauveur dans ce film. Je ne vous en dis pas plus, mais foncez voir En fanfare si vous voulez étoffer votre culture musicale et même sensibiliser un proche au don de moelle osseuse. C'est important, n'est-ce pas Léa ?
Oui, c'est sûr, on n'en parle pas assez.
Tout à fait d'accord. Deuxième film. Je suis un réalisateur espagnol qui a notamment très souvent fait jouer Penélope Cruz dans ses films. Je suis...
Almodovar.
Bravo Violette.
Je suis fan en fait.
Je crois qu'il y avait un petit indice hein, en début d'émission. Et d'ailleurs, heureusement que tu as trouvé parce que bah, j'avais rien d'autre en stock. Alors ici, on passe de la comédie au drame, mais on ne change pas vraiment de thématique puisqu'on va aussi parler de relations humaines, amicales cette fois, de maladies, de morts et même de suicides assistés avec La Chambre d'à côté, le dernier film d'Almodovar, donc sorti le 8 janvier dernier. Je vous vends du rêve, hein. Alors, j'ai été attirée de manière irrésistible par les têtes d'affiche du film, Julianne Moore et Tilda Swinton, qui jouent dans le premier film, donc en langue anglaise, du réalisateur. Les deux actrices interprètent Ingrid et Martha, deux amies de longue date qui ont travaillé dans le même magazine en tant que journalistes. Leurs chemins se séparent, mais des années plus tard, leurs routes se recroisent dans des circonstances plutôt malheureuses, puisqu'Ingrid apprend que Martha est atteinte d'un cancer très agressif. Les deux femmes se revoient et l'amitié va pousser Ingrid à accompagner Martha jusque dans ses derniers instants, car cette dernière est bien décidée à mourir selon ses propres conditions. Bon, Léa, je crois que j'ai officiellement plombé l'ambiance.
Bah, j'avoue que nous parler de suicide assisté dans une émission sur l'art, c'est pas non plus le plus joyeux.
Je sais, mais je vous assure, Almodovar a réussi ici à faire un film poétique et sensible sur un thème sombre mais brûlant d'actualité. Il propose une mise en scène en huis clos d'une grande modernité avec un scénario épuré, très coloré comme ses films habituellement, et beaucoup de nostalgie. Almodovar n'a pas voulu faire un film militant, mais un film qui ouvre la réflexion sur le suicide assisté. Et après l'avoir vu personnellement, je me suis posé deux questions. Et si on pouvait finalement choisir notre mort? Et si celle-ci pouvait bien se passer?
Bah, je crois que t'as ouvert la question pour le débat.
J'ouvre le débat.
Ryan a chaud tout de suite, qu'est-ce qui te vient?
Bah déjà, j'ai envie de voir le film d'Almodovar parce que c'est un grand réalisateur et le film me donne vraiment envie. Je sais que le thème est pas super fun, mais la mort, ça reste un thème dans le cinéma qui peut mener à une grande poésie. Et donc, j'ai très hâte de le voir. Là, je m'as convaincu.
C'est vrai qu'on parlait là des relations familiales. Bon, et apparemment, il y a un timing. Il ne faut pas trop voir ses parents pendant un certain temps. Mais alors, les accompagner dans les derniers instants de vie, qu'est-ce qu'on en pense? C'est quand même nécessaire, non? Jeanne, qu'est-ce que tu dis?
C'est intense comme question.
Le sujet est intense, je le laisse intense jusqu'au bout.
Non, mais je pense que ça pose d'autres questions qui sont très philosophiques et auxquelles j'ai pas du tout les réponses, mais c'est qu'est-ce qu'on doit à ses parents? Parce qu'on n'a pas forcément tous des super relations avec ses parents. Moi, j'adore mes parents, mais... mais dans le sens où est-ce qu'on leur doit de les accompagner jusqu'au bout si on n'a pas eu forcément cette relation avec eux toute notre vie? J'en sais rien, c'est un peu ouvert, mais...
Bah... Personnellement, je trouve que souvent la question de la mort, malheureusement, elle est encore traitée de manière un peu égoïste. C'est-à-dire que, bah, bien sûr, on pense à soi quand on va mourir, mais on ne pense pas assez à ceux qui restent, finalement. En tout cas, c'est quelque chose d'assez personnel. Mais voilà, je trouve que souvent, il y a des enfants qui se retrouvent un peu déjà seuls, peinés, et qui ont plein de choses à gérer. Et je trouve que, voilà, en tout cas, cette question, elle a le mérite d'être posée, de faire en sorte que ça se passe peut-être le mieux possible pour tout le monde.
Et je pense qu'il y a aussi, selon les contextes évidemment, des questions des fois qui peuvent être liées aussi par exemple à la religion ou le respect des... Au contraire de ce que tu disais, des souhaits des personnes qui vont mourir. Tu vois, s'il y a des personnes qui ont exprimé genre qu'elles veulent être incinérées par exemple, et si les enfants ou la famille ou les proches, pour eux c'est inconcevable, qu'est-ce qui prime? Est-ce que c'est la volonté du défunt? Est-ce que c'est... ce que les proches ont comme volonté, c'est aussi des questions qui peuvent être difficiles, j'imagine.
Et pour en revenir au suicide assisté, faut se rappeler quand même qu'en France, on était en train de préparer une loi qui allait passer, qui allait être votée au Parlement, qui était juste avant la dissolution du 9 juin. Donc c'est quand même un sujet qui a été mis sur la scène politique, qui n'est pas arrivé à terme. J'espère pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir recours quand même que ça va revenir au Parlement et qu'on va réussir à voter une loi qui convienne aux personnes qui en ont besoin. Je sais que c'est quand même un sujet qui est vachement défendu par la société civile, par les personnes qui ont envie de choisir leur mort comme dans le film d'Almodovar. Donc voilà.
Merci à vous pour vos réponses. Nous venons de parler des films Enfant-phare et La chambre d'à côté, tous deux encore à l'affiche. Si ça vous intéresse, je vous laisse y aller. C'est dans l'art, c'est déjà fini pour ce soir et c'était un plaisir d'être avec vous. Merci à vous Violette, Ryan, Jeanne, Marie-Lou et Alice pour vos chroniques et vos réactions. Merci à Eléa, à la technique. Le programme de la soirée se poursuit sur Radio Campus Paris. En attendant, retrouvez-nous sur radiocampusparis.org pour nous réécouter. C'est dans l'art, c'est un dimanche sur quatre. Portez-vous bien d'ici là et vive l'art sous toutes ses formes.
Retrouvez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle sur radiocampusparis.org et sur toutes les plateformes de musique à la demande.